bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission Écoforum qui donne la parole aux acteurs et aux actrices des transitions écologiques et solidaires de Marseille et sa région en partenariat avec la Forêt des Possibles. La Forêt des Possibles qui invite chacun et chacune à trouver sa juste place dans une société écologique et solidaire en retissant les échelles d'action qui nous permettent de nous donner un pouvoir d'agir et un pouvoir d'action, en questionnant d'abord la place que nous prenons en tant que personne et collectif autour de nos arbres de vie, puis ensuite, comment est-ce que tous les projets d'un territoire se nouent, se tissent, se lient les uns avec les autres, pour ensuite transformer la société. C'est le sujet que nous abordons chaque semaine en donnant la parole et aux acteurs et aux actrices de ce territoire, qui nous présentent leur parcours, leurs engagements, leurs valeurs, les questions qui les ont traversées, avant de présenter leurs projets, ce qui sont sortis de ces tripes et comment est-ce que ces projets se maillent les uns avec les autres pour pouvoir proposer une Marseille durable et on l'espère avec cette émission de radio d'éveiller les imaginaires qui peuvent ensuite aller prospérer et pousser ailleurs que dans cette ville. Et ce soir, nous te recevons, Fanny, bonsoir.
Bonsoir.
Pour parler de la boîte à vélo. Et nous remercions aussi Gilliane qui se trouve en régie pour cette émission.
Bonsoir à tous et à toutes.
Et pour ce qui me concerne, c'est Marin Auffray. Et dernier petit point logistique avant de débuter, sachez que cette émission est donc en direct de 19h à 20h. Vous pourrez la retrouver en rediffusion demain de 9h à 10h. Sur radiogalère.fr et pour l'instant, enfin sur Radio Galère, pardon, et pour l'instant, le site internet ne fonctionne pas, donc vous ne pourrez pas la retrouver en podcast immédiatement. Malheureusement, c'est une radio pirate qui s'est fait pirater, mais vous pourrez le retrouver le plus vite possible parce que les équipes de Radio Galère travaillent corps et âme pour remettre le site à flot. Voilà, petite parenthèse fermée, mais rentrons dans le vif du sujet avec toi, Fanny. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, on va un peu présenter le plan pour aujourd'hui, qui est un plan qu'on aime vous présenter semaine après semaine pour vous inviter à trouver votre juste place. D'abord, Fanny, tu vas nous présenter ton parcours, qui tu es, quelles ont été les choses qui t'ont travaillé, les questions que tu t'es posées. Puis après, qu'est-ce qui t'a amené à apporter le projet de boîte à vélo et qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Et ensuite, on verra comment est-ce que ce projet-là s'inscrit lui-même dans la société et œuvre à son échelle comme un petit colibri à une société qui parvient à vivre dignement et on l'espère le plus longtemps possible. Fanny, je te laisse te présenter.
Alors, je m'appelle Fanny Nollier, j'ai aujourd'hui 27 ans. J'ai grandi à Marseille, mais précédemment, avant mes 13 ans, j'ai grandi à Nantes et à Digne-les-Bains aussi. Donc mon parcours, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait le bachelor de l'ESSEC. Pendant ce bachelor, j'ai fait plusieurs échanges universitaires en Argentine, au Brésil et au Maroc. Et je me suis bien investie dans la vie associative également. Et à la fin de mes études, je me suis projetée dans le monde professionnel dans lequel je voulais être. Alors initialement, je voulais faire de l'humanitaire parce que quand j'avais fait mon stage de troisième, je l'ai fait à Santé Sud, qui est une association marseillaise qui fait des projets en Afrique et donc, je me suis dit que je faisais de l'humanitaire, mais en fait, après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas faire de l'humanitaire, mais de m'engager dans le social. Et donc, j'ai fait la chaire sociale entrepreneuriat de l'ESSEC. Et en parallèle, j'ai travaillé dans l'association Aurore en service civique. Et ensuite, je voulais retourner travailler et vivre à Marseille. Donc, je suis allée à Marseille. J'ai fait un petit projet d'association entrepreneuriale qui n'a pas abouti, mais c'était pas grave. Ensuite, il y a eu la crise Covid et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai décidé de faire un master en management d'établissement social et j'ai fait une alternance au groupe SOS à Marseille et j'accompagnais les établissements de PACA à développer des projets, notamment des projets d'insertion. Et chemin faisant, j'ai souhaité mettre une parenthèse dans l'univers du social et plus m'engager dans l'environnement. Et j'ai vu l'opportunité de travailler à l'association Les Boîtes à Vélo. Alors, ce n'est pas la boîte à vélo, mais c'est Les Boîtes à Vélo. Et donc, je suis depuis l'année dernière au poste de chargée de mission PACA pour l'association Les Boîtes à Vélo.
Oui. Et bah, merci déjà pour cette présentation de ton parcours, Fanny. Et généralement, on aime bien donner la présentation de ce qu'on fait, des raisons pour lesquelles on s'engage, pour inviter celles et ceux qui nous écoutent à se dire « Ah tiens, mais en fait, ça résonne avec des choses que j'ai pu vivre. Moi aussi, je suis passé par là. » Et il se trouve que Gillian Mathieu, qui est de l'autre côté de ce micro, est une personne où on voit à certains endroits qu'il y a pu y avoir le même genre de réflexion dans le parcours, si tu veux les partager aussi, Gillian, et qui est peut-être une représentation de certaines personnes marseillaises qui sont jeunes et qui se sont posé des questions à la suite de leurs études et assez rapidement après les études pour se dire quel est le sens que je donne à ma vie professionnelle et en lui donnant une approche plus large que le cantonner uniquement sur le perso. Est-ce que Gillian, c'est quelque chose qui fait écho aussi avec des questions que tu as pu partager ?
Un petit peu, même si le parcours est différent. Alors j'ai fait une école de commerce également aussi. Mais j'avais pas vraiment choisi d'aller en école de commerce et on m'a poussé là-bas parce que j'étais bon élève. Et une manière en école de commerce, quand on a des préoccupations sociales, environnementales, de repartir sur ce genre de sujet, c'est de parler d'entrepreneuriat social. C'était un peu ce qui était en vogue à ce moment-là quand j'étais en école. Donc je m'étais intéressé au sujet d'entrepreneuriat social. Je m'étais engagé un peu chez Make Sense qui faisait des hold-up donc pour aider des entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire qui ont envie de résoudre des problématiques de société. Et puis après, comme on a un peu tenu par le prêt qu'on peut avoir, j'ai quand même travaillé dans le monde du conseil à Paris, parce qu'il y avait quand même ces problématiques financières. Et je suis parti en Amérique du Sud pour voir un peu autre chose. J'ai eu cette chance-là, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et quand je suis revenu, je suis revenu avec beaucoup de questions. Et j'ai aussi voulu travailler dans le domaine de l'écologie ou bien dans le domaine du social. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis impliqué dans le domaine, dans le projet de la forêt des possibles. Donc oui, ça fait écho à certaines préoccupations. Mais ce n'est pas toujours évident de trouver sa place quand on est jeune et de savoir ce qu'on va faire dans les années qui viennent. Donc oui, je me reconnais un petit peu dans le parcours de Fanny, quelque part. Même si j'ai peut-être fait une parenthèse plus longue, en tout cas.
Justement, la question de trouver sa place, avant de présenter les boîtes à vélo, est-ce que tu as le sentiment de cheminer d'une façon où tu t'y sens de plus en plus proche? Toi qui disais que tu avais fait une expérience et que entrepreneuriale et puis que finalement c'était bien mais que la suite de ton parcours t'amenait ailleurs.
Alors comment ça
Est-ce que tu as le sentiment d'être à ta place?
Oui.
Oui, c'est une belle réponse. Et donc être à sa place aujourd'hui pour toi, c'est être dans les boîtes à vélo. Et alors qu'est-ce que c'est ces boîtes à vélo?
Alors, les boîtes à vélo, c'est une association qui est née en 2012 à Nantes. Alors, ça a été créé par plusieurs entrepreneurs. Au début, c'était des coursiers, des vélos-restos et une entreprise qui s'appelle The Plombier, qui fait de la plomberie à vélo. Et donc, c'est les boîtes à vélo, donc ces entreprises qui ont décidé de se rassembler pour porter des projets en commun dans leur ville. Et donc, ils ont créé les boîtes à vélo Nantes et cette association locale, ça s'est dupliqué un peu partout en France. Et aujourd'hui, on a 9 associations locales. On n'en a pas encore en PACA. mais peut-être un jour. Et donc, il y a 9 associations locales qui sont toutes rassemblées au sein d'une association nationale, les Boîtes à Vélo France, qui porte également une fédération professionnelle de la cyclo-logistique. Et donc, cette association représente 300 adhérents professionnels qui exercent une multitude de métiers à vélo. Donc, le vélo est leur outil de travail principal. Ça peut être des plombiers à vélo, des électriciens, les coursiers à vélo, donc les logisticiens à vélo, des restaurants et la filière économique du vélo, donc la fabrication, la réparation et la revente de vélos utilitaires. Et on est aussi une équipe de 17 salariés. Donc on a un pôle études qui produit de la connaissance, par exemple le panorama professionnel à la cyclo-logistique qui est sorti il y a quelques semaines aujourd'hui. On a une équipe de chargés de mission régionaux, comme moi, en PACA, et une équipe de direction et une équipe de chargés de com qui sont missionnés pour, d'une part, représenter et outiller nos adhérents, mais d'une autre part, qui est de plus en plus prégnante, de promouvoir la cyclomobilité et d'accompagner celles et ceux, que ce soit des entreprises ou des collectivités ou des entrepreneurs, à se mettre au vélo ou aider le développement de la cyclomobilité sur leur territoire.
Alors, on va commencer par quelques petites questions de définition. Il y a trois termes que j'aimerais bien qu'on puisse creuser un petit peu. La cyclomobilité, la cyclo-logistique et un vélo utilitaire, c'est des mots que tu as employés. Pour celles et ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est ou qui peuvent en avoir une vague représentation, qu'est-ce que ça signifie et également qu'est-ce que ça n'est pas, parce que ce n'est pas toutes les questions liées au vélo. Donc, si tu veux détailler à chaque fois ce que ça implique.
Ok. Alors, la cyclomobilité professionnelle, c'est quand un professionnel, une fois arrivé dans une entreprise, travaille à vélo. Donc, ce n'est pas la partie domicile-travail, ce n'est pas la partie vélo-taf. C'est vraiment tous les déplacements interprofessionnels. La cyclo-logistique, c'est le métier de coursier à vélo, de logisticien à vélo. C'est par exemple la logistique qui remplace la camionnette de UPS ou Chronopost. Et donc, c'est tous les logisticiens qu'on voit de plus en plus dans toutes les villes. Et on en voit beaucoup à Marseille, à la Courserie, à Gilles-en-Ville, Tout en Vélo, Mistral Coursier et Blackmate Cycle, qui sont tous adhérents des boîtes à vélo. Et d'autres, mais qui ne sont pas forcément adhérents des boîtes à vélo, donc je les connais moins. Et un vélo utilitaire, c'est le vélo qui peut transporter de la charge. Donc ça peut être un vélo cargo, ça peut être un vélo cargo plus remorque ou un vélo plus remorque tout simplement. Généralement, ils sont électrifiés et ils peuvent, on estime qu'ils peuvent porter jusqu'à 300 kg et 1 ou 3 mètres cubes, je n'ai plus trop les chiffres. Bon, quand il porte 300 kg, il est moins agile que quand il porte une charge un peu moins lourde, mais quand c'est 100 kg, ça peut le faire et c'est déjà énorme de transporter 100 kg.
Ouais, on avait reçu dans l'émission les alchimistes qui récupèrent le compost dans les restaurants notamment. Et,
désolé. Alors, est-ce que tu peux...
Oui, on avait notamment reçu les alchimistes qui récupèrent le compost dans divers points, soit des restaurants, soit des entreprises, et eux, ils récupèrent, enfin moi je les ai vus récupérer les seaux de compost avec des vélos cargo justement, ou alors je ne sais pas si c'est des vélos cargo, mais en tout cas des vélos avec de lourdes charges. Voilà. Mais autre définition, pas vraiment définition, mais une question d'imaginaire, un plombier à vélo ou un électricien à vélo, j'ai quand même du mal à voir à quoi ça ressemble. Est-ce que tu pourrais expliquer, en fait, il transporte tous ses outils dans une grande malle et il arrive.
Voilà. Alors, c'est ça. C'est exactement ça. La seule chose qui diffère avec un plombier traditionnel, c'est que la logistique du plombier ou de l'électricien ou du serrurier, c'est qu'il va demander à... Il va se faire livrer tous les gros œuvres, tous les... Par un peu une chaudière, il va se la faire livrer directement sur place pour lui éviter de devoir apporter la chaudière de son bureau au terrain, au domicile. Et sinon, il va bien penser à quels outils il faut pour son intervention. Donc c'est vraiment penser une logistique une fois dans le local avant de partir en intervention, au lieu d'avoir tout le matériel dans la camionnette et se servir une fois sur place. Mais finalement, c'est une logique à prendre. Et une fois que c'est pris, ils sont aussi performants que d'autres professionnels qui opèrent en camionnette. Et donc, par exemple, The Plombier n'a aucune camionnette. Et ils sont, donc, c'est The Plombier, c'est une entreprise nantaise. Et il me semble qu'ils sont entre 10 et 20 salariés opérant tous les jours.
Et ça me fait penser, l'année dernière, j'ai rénové mon appartement et c'était un problème pour certains entrepreneurs de venir se garer en ville. C'est vraiment une plaie, donc ça fait que parfois ils refusent des chantiers. Mmh. Et donc, avec un vélo, un plombier, est-ce qu'il peut se garer facilement? Il y a des endroits spécifiques où il peut se mettre sur le, enfin, tout simplement sur une barrière, un arceau?
Oui, il peut se garer plus facilement, en effet. En tout cas, il n'a pas besoin de chercher une place et à tourner pendant 2 heures dans le centre-ville pour trouver une place et de payer la place de parking ou l'amende parce qu'il n'a pas payé la place de parking. Et il peut se stationner, il peut stationner sur tous les espaces de stationnement de la, où les vélos classiques se stationnent. Et il peut rentrer aussi, c'est un grand avantage, c'est qu'il peut rentrer dans les zones piétonnes et les zones à faible émission, ou les hypercentres-villes qui sont de plus en plus fermées aux voitures, aux utilitaires.
Et là, tu parlais tout à l'heure de The Plombier en disant que c'était une entreprise, c'est ça ?
Oui, c'est une entreprise.
Une entreprise qui est nantaise, et en disant qu'il y avait 9 associations locales et une nationale. Il me semble, en t'écoutant, que tu disais qu'il n'y en avait pas en PACA. Mm. Et pourtant, toi, tu es ici à Marseille. Donc, est-ce que tu peux spécifier ce sur quoi tu travailles à Marseille, et est-ce qu'un jour il y aura l'entreprise, enfin l'association des boîtes à vélo PACA?
Oui, alors moi mon poste il a été largement financé grâce à l'ADEME, grâce à une subvention de l'ADEME. Donc l'ADEME c'est une agence nationale qui œuvre pour l'environnement. Et la mission que m'a donnée l'ADEME pendant 3 ans c'est de promouvoir la cyclomobilité professionnelle dans les grandes métropoles polluées, donc principalement Marseille, Nice et Toulon, et d'aider et d'accompagner les entreprises, voire les collectivités, donc les employeurs publics, à glisser vers la cyclomobilité professionnelle. Et pourquoi il n'y a pas d'association locale en PACA? Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, dans le sud, on est moins des villes cyclables, on a moins la mentalité cycliste, en tout cas l'imaginaire collectif cycliste. Les infrastructures sont moins développées que ça peut l'être dans d'autres villes comme Paris, Nantes, Lyon. Et ça, c'est pour plusieurs raisons.
Géographique aussi, peut-être un petit peu.
Géographique, politique, économique.
Naturel.
Naturel, mentalité de sudiste, qui aime bien sa voiture. Et on est souvent un peu en retard aussi, parfois. Et donc, de fait, il y a peu de professionnels à vélo et donc ça inspire moins les autres professionnels qui pourraient se convertir à vélo. Moi, je suis persuadée que s'il y avait des entrepreneurs à vélo à Marseille, si par exemple il y avait des plombiers, des électriciens, beaucoup de vélos resto, ça donnerait envie à d'autres entrepreneurs de s'y mettre, voire à d'autres entreprises classiques à se convertir. Et ça, ça va venir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cyclologisticiens. Il y a de plus en plus de personnes qui m'appellent pour me demander comment faire de la cyclologistique à Marseille. Et ça donne envie à d'autres professionnels. Là, il y a un serrurier qui se lance. Et donc, petit à petit, plus il va y avoir d'autres professionnels, plus ça va peupler comme ça a peuplé dans les autres villes.
On a posé la question de savoir qu'est-ce que c'était, donner des questions de définition, le lieu. Et donc, tu dis là qu'il y a des personnes qui t'appellent. Donc, en fait, qui t'appelle? Et à chaque fois, est-ce qu'ils t'appellent parce qu'ils ont besoin d'un soutien vraiment technique, un accompagnement à la transformation progressive de la façon dont ils organisent leur mobilité? Comment est-ce que ça se passe?
Qui m'appelle? Alors, différents publics. Il y a des entrepreneurs et donc ils m'appellent pour savoir si, selon eux, le modèle qu'ils ont pensé est pertinent. Pour connaître un peu l'état des lieux de la région pour le métier dans lequel ils se projettent. Donc, par exemple, l'état des lieux de la cyclo-logistique à Marseille. Ensuite, il m'appelle aussi pour connaître les aides à l'achat et pour connaître quel vélo cargo pourrait être le plus intéressant et pour des mises en lien, des mises en contact. Et parfois, pour aller voir avec eux des collectivités. Par exemple, là, j'ai en tête quelqu'un qui m'a appelé là, il y a une dizaine de jours parce qu'il souhaiterait ouvrir un service de cyclo-logistique, mais dans des petites villes. Et il souhaitait qu'on aille ensemble démarcher les collectivités qui pourraient être les principaux clients, mais aussi qui pourraient faciliter le développement de la cyclo-logistique parce que ça améliorerait le cadre de vie de leur ville. Et sinon, ça peut être aussi des collectivités. Par exemple, j'ai eu cet été la ville de Gap qui me demandait comment on pourrait ensemble faciliter le développement de la cyclomobilité dans la ville. Ça peut être des entreprises. Il y a un grand centre commercial à Marseille là, qui m'a demandé les mettre en relation avec les cyclo-logisticiens pour que les cyclo-logisticiens puissent faire la livraison des personnes qui font leurs courses dans le centre commercial. Enfin, voilà, plein de publics différents.
Et une des questions aussi, c'est de savoir ce service qui est proposé, est-ce que pour eux, c'est un service qui est gratuit ou pas ? La question du modèle économique est souvent clé lorsqu'on veut finalement financer la transition écologique. Tu parlais de l'ADEME. Mm-hmm. Est-ce que l'ADEME est seule financeuse ?
Financeur.
Financeur. Ouais. Pour toi, j'ai l'impression que oui. Pour les autres activités, pour ce qui concerne les études et le programme C2E, comment est-ce que fonctionne l'association et les associations régionales des boîtes à vélo ?
Alors, donc mon poste, en effet, c'est principalement l'ADEME, mais on est ouvert à d'autres financements, hein, s'il y a des personnes qui veulent nous financer. C'est différent dans d'autres régions, par exemple à Paris, à la ville de Paris et la métropole de Paris qui cofinancent le poste de mon homologue en Ile-de-France, donc avec l'ADEME. À Nantes, il y a la métropole de Nantes. À Lyon, il me semble aussi qu'il y a d'autres financeurs. Après, pour les études, c'est principalement l'ADEME et le ministère du Développement Durable qui font des commandes. Par exemple, le Panorama de la cyclo-logistique, c'était ces deux financeurs-là. Après, on a un financement minime de nos adhésions. Vraiment, nos adhésions, elles ne couvrent pas du tout nos frais de fonctionnement. Et heureusement, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs et les frais d'adhésion annuels, par exemple, ça commence à 42 euros. C'est vraiment significatif. Et après, il y a d'autres... Ah oui, il y a les programmes de... C2E, certificat d'économie d'énergie, qui sont financés sous le principe de pollueur-payeur, donc c'est Eni, enfin les gros pollueurs comme Total, qui payent des contributions pour développer des projets qui permettent de compenser en quelque sorte les émissions de leurs activités. Et donc ça permet de créer des chouettes programmes comme le précédent programme Ma Cyclo-Entreprise qui accompagnait des entrepreneurs, qui les aidait via des primes d'aide à l'achat à investir dans des vélos cargo. Et aujourd'hui, on lance un programme cyclo-cargologie qui va essayer de promouvoir la cyclo-logistique et de faire en sorte que ça se duplique un peu partout dans toutes les villes. Voilà. Et pour les associations locales, déjà, donc tu m'as dit, est-ce qu'un jour il y aura une association Les Boîtes à Vélo PACA ? Probablement, je pense, mais c'est vraiment si les professionnels à vélo souhaitent se rassembler pour porter des projets en commun, par exemple avoir un hub, des locaux partagés, ou pour monter des projets ensemble, et ben ils peuvent créer une association locale. Et puis c'est très sympa parce qu'en fait ils font des apéros ensemble, ils se fédèrent et ils se créent une bande de potes hein, finalement. Et donc le financement, c'est quand un adhérent adhère aux boîtes à vélo et qu'il y a une association locale et qu'il souhaite s'ancrer dans cette association locale, 80% de son adhésion va au budget de fonctionnement local et 20% au budget national. Comme ça, ils ont un petit fonds de roulement, ils peuvent faire des projets ensemble.
Et alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'écosystème marseillais des professionnels à vélo ?
Eh bien, l'écosystème des professionnels à vélo, nous, en tant qu'adhérents, on a principalement des cyclo-logisticiens, plus des réparateurs. Je pense à Bichonneur des vélos, qui est porté par Guénolé. On a aussi Cargo Mass, qui vend des vélos cargo utilitaires principalement et qui fait des caisses sur mesure pour les professionnels. Et on a également Sony Serrurier, qui est le premier serrurier à vélo. Mais alors là, il se lance, donc bientôt on le verra dans les rues marseillaises. Donc ça, je suis ravie parce que c'est le premier artisan à vélo, en tout cas du réseau Les Boîtes à Vélo.
Et on espère qu'il ne mettra pas la clé à la porte. Sous la porte, pardon.
Et voilà.
Et alors nous, on avait reçu à la radio Tout en Vélo. Et on aime bien pouvoir faire des liens entre les personnes et les structures qu'on reçoit pour montrer leur connexion réciproque. Est-ce qu'il y en a un entre Les Boîtes à Vélo et Tout en Vélo?
Ben oui, mais Tout en Vélo est un adhérent fidèle des Boîtes à Vélo. Tout en Vélo, c'est un réseau qui existe partout en France. Et donc, je crois, tous les Tout en Vélo nationaux font partie de l'association. Il y a également Tout en Vélo X qui s'est monté l'année dernière, qui fait partie de l'association. Et Thomas de Tout en Vélo était un des principaux formateurs marseillais du programme Ma Cyclo Entreprise. Donc il a permis d'accompagner, je crois, plus de 200 entrepreneurs marseillais dans, en tout cas, la réflexion de se lancer un projet à vélo.
Thomas Croisé,
ouais,
que nous avions reçu en février dernier, si vous voulez vous référer à l'émission que nous avions faite à ce moment-là. Et pour continuer, les professionnels à vélo, moi, dans mon imaginaire, ça m'évoque aussi la Poste, que j'ai vu depuis tout petit venir à vélo distribuer le courrier. Est-ce que vous travaillez avec la Poste? Tu parlais d'entreprise mixte quand on a présenté l'émission. Est-ce que tu peux un peu développer ce que ça veut dire?
Donc la Poste fait partie des adhérents des Boîtes à Vélo, mais via la Fédération professionnelle de la cyclo-logistique en tant qu'entreprise mixte. Donc entreprise mixte, c'est les entreprises qui ont une flotte de vélos cargo, mais également une flotte de véhicules thermiques, donc véhicules qui fonctionnent grâce au pétrole. Et alors que les entreprises spécialisées, c'est vraiment les cyclo-logisticiens qui sont ce qu'on dit des pure players. C'est des cyclo-logisticiens qui font leurs courses via des vélos cargo ou des vélos utilitaires remorques, comme Tout en Vélo. Et en effet, la Poste fait partie de la fédération. D'ailleurs, elle fait partie du conseil d'administration, conseil de direction, il me semble, de la fédération. Et la Poste est le plus grand employeur de professionnels à vélo, hein, c'est de France. Et l'historique également, en fait, c'est une entreprise qui n'a pas lâché ses vélos, alors que les entreprises historiques ont abandonné les vélos pour les voitures et les camionnettes.
Bah oui, dans la question de nos imaginaires, on voit beaucoup d'images du début du XXe siècle avec énormément de personnes qui transportaient des choses à vélo et souvent qui étaient des consignes qui pouvaient être rapportées sur du lait, notamment sur des produits laitiers qui ont un petit peu disparu depuis. Et donc c'est un imaginaire qui peut être remis à l'ordre du jour. Et tu disais en préparant l'émission aussi qu'il y avait la question du passage à l'échelle avec aujourd'hui un certain nombre d'entrepreneurs qui étaient intéressés pour cela, mais une volonté pour vous de vouloir passer vers des échelles plus importantes pour toucher plus d'entreprises et être dans une approche plus quantitative. Est-ce que tu veux un peu développer pourquoi et où est-ce qu'on en est en ce moment ?
Pourquoi le changement d'échelle? Je dirais pour le mieux vivre en ville, l'apaisement des centres-villes urbains, parce que plus de vélos cargo professionnels, ça veut dire moins d'utilitaires, moins de voitures, et donc moins de pollution de la ville, moins de pollution visuelle, moins de pollution sonore, et une dynamique citoyenne différente, c'est-à-dire qu'on verra nos professionnels, on verra ceux qui interviennent chez nous, les plombiers, les artisans, les coiffeurs, les bibliothécaires, les services de réparation des écoles, la livraison des écoles centrales. Tous ces métiers, on les verra sur leur vélo cargo et pas cachés derrière leur carrosserie, dans leur voiture, dans les embouteillages. Et donc, Donc pour ça, enfin, on parle beaucoup d'apaisement des centres-villes, faire en sorte que ça soit plus humain et de laisser de moins en moins de place à la voiture. Il faut savoir que il me semble que la voiture, c'est 80% de l'espace public. Et donc pour toutes ces raisons, et une des grosses raisons, et c'est la raison du financement de la Dame de mon poste, c'est que les véhicules thermiques polluent énormément. Et ça, bah, c'est des maladies futures pour tout le monde. Hein.
Et alors la question du cadre de vie et de l'apaisement des villes et d'une meilleure santé en ville, on en parlera juste après la pause lorsqu'on va se projeter dans les imaginaires d'une ville apaisée avec plus de vélos. Mais juste avant ça, je vais te laisser nous présenter la musique que tu as décidé de nous faire écouter, qui est la deuxième musique, parce que si jamais vous avez prêté l'oreille au tout début, nous avons écouté « À bicyclette », mais là c'est la deuxième que tu as choisie.
Eh bien, c'est « Un dimanche au goût » de Massilia Sound System, parce que tout bon Marseillais connaît cette chanson et c'est l'apprécier à sa juste valeur. Alors, on n'est pas dimanche, mais c'est tout comme.
Merci Fanny pour les boîtes à vélo et à tout à l'heure. Desi la gamba, te calinia segue che so buon momento. Davana man, desi la gamba, e me per tu vesti l'ule me dei rai. Davana man, desi la gamba, si aspurido che non sai.
On va passer un dimanche au coude, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude, le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au coude, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude, le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Du lundi au samedi, travailleurs et chômeurs, tous ceux qui étudient, les honnêtes, les fraudeurs, les papis, les mamies, les policiers, les voleurs, veulent tous recevoir le fruit de leur dur labeur. Ils voudraient tous conserver quelques valeurs, ces valeurs auxquelles Marseille a toujours fait honneur. La convivialité, la chaleur et la bonne humeur, le rythme des Marseillais au gré des saisons, des couleurs. À l'automne, on va passer quelques belles soirées dehors. L'hiver, il faut patienter, là-dessus, on est tous d'accord. Si le printemps le permet, on se promène sur le port. Mais quand arrive l'été, l'appel des goudes est le plus fort. On va passer un dimanche au goud, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude, le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au goud, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude, le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon.
Tu prétends au printemps trop de mauvais délire, résonne dans la ville et mon esprit chavire. C'est le chable partout, vraiment pas de quoi rire. Ça file tous les jours, tu peux t'attendre au pire. Pas le temps de souffler, c'est toujours le chantier. Pas le temps de souffler, le monde est sans pitié. Certains sont prêts à tout pour finir les premiers. Dans le ciel, les vautours se comptent par milliers. Laissons là tous ces fous et partons voir ailleurs. Je connais un endroit où tout paraît meilleur. Un endroit au soleil sans oiseaux de malheur. Là-bas dans la calanque, tu verras, c'est le cœur.
On va passer un dimanche au goud, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude, le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au goud, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude, le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon.
On va passer un dimanche au goût.
C'était un dimanche au goût, comme je l'ai passé moi-même la semaine dernière, avec une vue incroyable depuis Kallang, coucher de soleil qui est toujours fantastique et surtout en hiver. Et nous sommes de retour sur Radio Galère au 88.4, toujours en direct avec Fanny des Boîtes à Vélo dans l'émission de La Forêt des Possibles, Gilliane et moi aux manettes pour cette émission. Et après avoir présenté un peu ton parcours, Fanny, puis expliqué les boîtes à vélo et puis tout l'écosystème et le fonctionnement de cette association, nous allons nous lancer dans un grand exercice de prospective pour celles et ceux qui nous écoutent. Et voici l'exercice qui nous est proposé. Nous allons nous projeter dans une société de Marseille qui a réussi sa transition en 2030. Sauf que quand on dit réussir sa transition, généralement ça n'évoque pas grand-chose, parce que c'est quoi une transition et ça veut dire quoi qu'elle soit réussie. Alors le mieux, c'est quand même de pouvoir la décrire, et la décrire avec toute une palette de à la fois intellectuelle et puis aussi plus émotionnelle, de saveurs, de senteurs, de représentations visuelles de ce que ça peut être, et même de l'expérience que l'on peut avoir de ce que c'est que cette transition. Et donc on va se donner trois regards pour expliquer une société qui soit apaisée avec plus de vélos, parce que la cyclologistique a réussi à passer l'échelle et a fait que la ville de Marseille a culturellement passé dans autre chose. Et donc ces trois regards, ça va être le regard d'un citoyen, un ou une citoyenne, citoyen, citoyenne, le regard d'un ou une professionnelle et le regard de un ou une femme politique, un ou une homme ou femme politique. Et donc là, le premier thème, ça va être le thème du citoyen. Et donc je vais te demander, Fanny, au cours des 5 minutes qui arrivent, de nous présenter en fait ce que serait qu'une Marseille apaisée dans laquelle tu vivrais, toi, citoyenne de Marseille, de façon apaisée grâce à plus de vélos.
Alors, 2030, c'est assez proche, hein, mine de rien, c'est dans 6 ans. Mais dans cet imaginaire, eh ben, on aurait quand même moins de voitures et plus de vélos cargo. Et ce qui ferait que, en termes de bruit et de senteur, eh ben, ça sentirait quand même meilleur et on respirait mieux. Là, ce matin, j'étais en train de courir sur la corniche et j'imaginais du coup ça. Et c'est vrai que la course serait peut-être plus agréable si on avait davantage de professionnels qui étaient à vélo, parce que finalement, aujourd'hui, 30% des professionnels circulent en ville. Et donc, si on convertit ces 30%, on va dire 20%, parce que la cyclomobilité ne peut pas tout remplacer, hein, faut garder ça en tête, il y aurait quand même une majorité des déplacements qui seraient faits à vélo cargo. Et donc, on verrait sur les pistes cyclables plein de vélos cargo floqués avec le nom des entreprises, et on verrait des outils dans tous les sens, et il y aurait un bon vivre. Les professionnels se croiseraient, se diraient bonjour, et ils croiseront les personnes qui viennent, chez qui ils viennent intervenir, et voilà.
Est-ce que c'est donc une promesse d'un vieux port où il n'y a plus de Y en scooter avec des grosses accélérations qui font du bruit, si jamais on se dit qu'on arrive à avoir une ville qui est plus piétonne pour le citoyen et pour la mobilité avec plus de vélos?
Peut-être qu'il n'y aura plus les scooters en Y, mais peut-être qu'il y aura encore les vélos en Y.
Le vélo en Y,
ouais.
Alors, je ne sais pas si les professionnels font du vélo en Y pour ce qui
concerne. Ça va être compliqué, ça. Trop lourd.
Mais effectivement, ouais, trop lourd, et puis probablement un poil risqué aussi, sachant que là on parle de santé et que l'enjeu n'est pas d'envoyer directement à l'hôpital pour avoir fait un Y avec une grosse carriole derrière soi. mais effectivement, là en matière de santé, on a noté quand même plusieurs points. Il y a de la santé physique vraiment assez pure dans l'aspect où c'est la qualité de l'air qui pourrait être améliorée. Dans ce qui concerne la santé mentale, on entend le fait d'une ville qui est plus douce et peut-être moins agressive de ses klaxons, moins agressive de ses voitures qui arrivent à toute allure, finalement du danger que l'on peut avoir ou ressentir, en tout cas à certains endroits de la ville. qui, le danger qui peut venir de partout, hein, ça peut venir de la voiture, mais qui peut aussi venir d'une trottinette qui arrive de nulle part, d'un vélo qui te frôle par derrière, parce que à certains endroits, les pistes cyclables ne sont pas forcément ni existantes, ni au meilleur endroit. Je pense sur le boulevard Chaffe, par exemple, avec des pistes cyclables sur des trottoirs. Et donc, parfois, au dernier moment, on voit arriver un vélo qu'on n'avait pas vu venir.
La métropole a des belles ambitions hein, en termes d'aménagement cyclable. Donc, idéalement, en 2030, la métropole a réussi à faire toutes ces pistes cyclables qu'ils ont projetées. Et en plus, encore plus, ils ont augmenté la barre des prospections et ils ont fait des boulevards cyclables, comme ce qui va être fait à Paris. Donc Paris projette des RERV qui vont faire tout le tour de la Petite Couronne. Et donc, idéalement, Marseille se lance là-dessus aussi pour faire des voies cyclables bien délimitées, des voies deux fois deux voies et séparées de la voie des voitures. Et qu'on ait autant de pistes cyclables que de pistes pour les voitures. Ça serait une belle projection et il y aurait globalement beaucoup, beaucoup moins d'accidents.
Et ça, on en parlera juste après parce qu'on va se projeter dans la peau d'une personne qui travaille dans une administration, qui est élue dans une administration juste après. Mais on continue notre regard de citoyen, citoyenne dans cette ville apaisée. Moi, je me pose une question. On peut se dire, ouais, non, mais vous habitez en centre-ville, vous, les personnes qui nous parlaient à la radio ce soir, donc c'est facile. Mais si jamais, moi, j'habite à la Valentine, ou si jamais, moi, j'habite à la Batarelle, ou moi, j'habite à Saint-Henri, c'est compliqué, non ?
En effet, déjà, Marseille, c'est particulier. Et c'est peut-être pour une de ces raisons que la cyclomobilité professionnelle n'est pas encore bien développée, parce que c'est une ville très étendue. Donc la cyclomobilité professionnelle, ça a du sens pour vraiment le centre-ville urbain, donc, qui est très dense. Mais dans un Marseille idéalisé en 2030, c'est qu'il y aurait l'intermodalité qui serait bien développée. Et donc il y aurait énormément de transports en commun, il y aurait le train, il y aurait le fluvial aussi qui aurait été bien développé et qui permettrait de faire le transfert modal, hein, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que l'usager qui habite à la Valentine prendrait le bus, arriverait dans le centre-ville. Là, idéalement, bah, il irait dans son local. Donc on peut idéaliser un hub partagé avec d'autres professionnels à vélo et il pourrait récupérer son vélo cargo, mettre tout le matériel dont il aurait besoin pour aller travailler, poser ses affaires dans son lockers et ensuite aller faire ses interventions en hyper-centre-ville. Ensuite rentrer déjeuner ou rentrer le soir et faire le chemin inverse.
En fait, on parle parfois de décentraliser la France, mais là, il y a aussi la question de décentraliser Marseille aussi, j'ai l'impression.
Oui, en tout cas, faire dans la cyclomobilité et la cyclologistique, on parle beaucoup de micro-hubs. Donc, c'est vraiment faire des lieux d'approche stratégiques un peu partout dans la ville où les professionnels pourraient avoir leur stock.
Et ça, la question du micro-hub, c'est une question qu'on aborde régulièrement dans les émissions de La Forêt des Possibles et que vous pouvez aussi retrouver dans l'émission avec Amerma, qui pose... justement la question d'avoir des petits espaces multimodaux, notamment avec ces espaces d'échange, mais aussi de construction, de réparation de matériaux. Et en tout cas, eux, ils travaillent sur la réindustrialisation locale dans une approche relativement low-tech et donc avec un certain nombre de hubs qui pourraient se trouver dans la ville. Et c'est intéressant de voir que cette question revient d'émission en démission et que bah, justement Thomas Croiset, dont nous parlions tout à l'heure, de Tout en vélo, nous avait également parlé de ce concept. Et donc c'est touchant dans cette forêt de voir comme ça des structures qui viennent se mailler les unes les autres sur des idées. Et l'enjeu, c'est de pouvoir les rendre possibles. Et donc là, on a eu cette approche citoyenne et on retient aussi donc, finalement qu'il y a Il y a donc la santé physique, la santé mentale et puis la santé relationnelle avec le fait de pouvoir davantage se rencontrer, être moins cloisonné chacun dans sa voiture, etc. Avec le vélo, c'est ce que tu abordais tout à l'heure. Et tu as déjà un petit peu grignoté dans tes réponses sur ce qui devait être fait en matière d'aménagement de l'espace public par les collectivités qui ont la compétence pour transformer les voies de mobilité à Marseille. Donc, je vais te poser une question en deux temps. La première, c'est quelle aura été en 2030 la politique qui devra avoir été menée. Et donc là, je ne te demande pas ce qui est en train d'être fait maintenant, mais qu'est-ce qu'il faut faire. Et la deuxième question, ça sera comment on y arriver. Mais déjà, commençons par qu'est-ce qu'il faut faire.
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, c'est assez intéressant. Je vais paraphraser les cyclo-logisticiens qui ont publié l'année dernière un plaidoyer, la cyclo-logistique ex-Marseille, donc tous les adhérents ex-soyez marseillais. Et dedans, ils font des préconisations, justement, pour soutenir la cyclo-mobilité et la cyclo-logistique. Et donc, il y a mettre en place le plan vélo qu'ils ont, et en prenant en compte les recommandations du CEREMA, qui est un organisme qui bachote beaucoup sur quelles pistes cyclables doivent être faites pour être le plus performant pour les cyclistes de tout type, famille et professionnel. Ensuite, les collectivités, elles peuvent aussi soutenir le développement via plusieurs actes. Là, je pense soutenir les entreprises et les entrepreneurs qui souhaitent se lancer à vélo via des subventions, des aides à l'achat, des aides pour, par exemple, détaxer ou limiter la TVA. Ça peut être aussi attribuer des espaces publics ou fonciers, en tout cas, aux professionnels à vélo à moindre coût, par exemple pour faire des hubs dont on parlait. Ça peut être aussi promouvoir la cyclomobilité et la cyclologistique auprès du grand public pour montrer que c'est possible, par exemple. Et donc ça permet de changer les imaginaires et que les citoyens se disent « Ah, un professionnel à vélo, c'est pertinent. » Donc je peux faire appel à un professionnel à vélo et donc ça, et où je peux me transformer moi aussi en professionnel à vélo. Et les collectivités ont une grosse clé aussi pour permettre d'accélérer la cyclomobilité, c'est de faire appel eux-mêmes aux cycloprofessionnels via leur marché public, leurs appels d'offres, parce que finalement la collectivité fait énormément d'actions. Par exemple, elle gère les écoles, elle gère le CCS, donc la livraison des personnes âgées, elle fait beaucoup d'interventions dans les centres-villes, elle ramasse les déchets. Et donc tout ça, c'est des opérations qui pourraient être faites à vélo et qui pourraient être sous-traitées à des professionnels à vélo. Et c'est déjà le cas dans beaucoup de villes, dans beaucoup de collectivités. Et donc c'est réel, ça existe.
Et sur le territoire marseillais, qui a la compétence ? Est-ce que la compétence déjà sur la mobilité, il me semble que c'est plutôt la métropole, c'est ça. Et on espère que Martine Vassal, ses équipes, ses conseillers, ses administrateurs sont en train d'écouter Radio Galère ce soir pour écouter ce plaidoyer, parce que nous y avons toutes et tous intérêt. Et ensuite, pour ce qui concerne les différentes aides finalement aux cyclo-logisticiens, on est sur encore est-ce que c'est aussi eux qui ont cette compétence-là ? Étant donné que c'est la mobilité, ou est-ce qu'on peut dire que finalement la ville, elle aussi, peut accompagner ses acteurs économiques ?
Tout le monde peut subventionner s'ils le souhaitent ou s'ils le peuvent. Moi, j'ai conscience que les budgets de la ville de Marseille et de la métropole ne sont pas illimités et qu'ils ont plein d'autres compétences. Néanmoins, Paris et Lyon, qui sont des villes plus riches, certes, mais subventionnent leur cycloprofessionnel. Ce qui permet de bonifier énormément les aides à l'achat. Je crois qu'à Lyon, ça peut aller jusqu'à 4000 euros. Alors que à Marseille, à Marseille, il y a la région qui subventionne les professionnels à vélo, et ça peut être cumulable avec les aides nationales. Donc ça peut aller jusqu'à 2000 euros d'aide.
Très bien. Merci pour ces réponses. Et alors, on continue notre tour d'horizon des imaginaires. On a parlé d'un imaginaire citoyen plus sur le plan de la santé, de ce qu'il avait à y gagner que de vivre une vie plus douce et apaisée avec moins de mobilité carbonée motorisée. On a parlé d'un plan d'action activable pour les collectivités territoriales et on parle de professionnels depuis le début de cette émission sans avoir vraiment cette plongée finalement dans son quotidien. Et ce qu'on se disait quand on préparait l'émission, c'est qu'on peut se dire mais finalement c'était le quotidien de la fin du 20e siècle, du 19e siècle pardon, du début du 20e siècle. Quand on regarde les photos et vidéos d'archives, il y avait énormément de professionnels à vélo et le sens du progrès a plutôt été vers la motorisation de ces activités. Et on pourrait se dire que finalement, revenir à vélo, ça pourrait être perçu comme une sorte de retour en arrière ou une adaptation faute de mieux parce que de toute façon, il n'y aura plus de ressources et le changement climatique oblige à. Mais si on a envie de le rendre souhaitable, comment est-ce que tu pourrais te projeter dans leur imaginaire?
Les vélos cargo, c'est plus les mêmes qu'avant. Avant, ils étaient pas électriques et moins agiles. Aujourd'hui, il y a des belles innovations. Et d'ailleurs, il y a une belle filière économique du vélo française qui est en train de se développer avec plein de professionnels. Il me semble qu'ils sont une vingtaine, voire trentaine, qui fabriquent tous les jours des vélos cargo et qui sont très, très bien. Et agiles et pratiques. Et donc, c'est sympa de rouler à vélo cargo et en vélo utilitaire. Néanmoins, Je pense que les professionnels perdront une petite qualité de vie professionnelle parce qu'il y a un certain confort d'être dans sa camionnette, de juste appuyer sur l'accélérateur pour avancer et d'avoir son univers qui te protège et qui permet d'être à l'abri, par exemple, pour les intempéries. Mais ils gagneront sur énormément d'autres abcès. Déjà en termes de qualité de santé, de vie, ils feront du sport tous les jours. En tout cas, ils bougeront, et ce qui réduira leurs quelques maladies peut-être. Et il y a quelque chose de très agréable aussi de faire du vélo, d'être en plein air, d'avoir le vent sur les cheveux en roulant. Ensuite, économiquement, et ça c'est le nerf de la guerre pour les professionnels, la cyclomobilité, ça va devenir de plus en plus intéressant. Déjà, parce que la mobilité carbonée, thermique, est de plus en plus chère. Le coût du pétrole augmente, la création de voitures, en tout cas le coût d'achat, c'est assez important. Les places de parking sont importantes, les amendes sont importantes, l'assurance sont importantes. Et le vélo cargo, y a un coût d'investissement, certes. Hein, un vélo cargo, ça commence à partir de 5 000 euros et ça peut aller jusqu'à 15 000 euros si on prend un vélo cargo très, très sophistiqué pour faire un restaurant à vélo, par exemple une pizzeria à vélo. Mais ensuite, les coûts de fonctionnement sont beaucoup plus faibles. La recharge électrique du vélo cargo est quand même beaucoup plus faible et beaucoup plus faible qu'un véhicule électrique, par exemple. Et voilà. Ensuite, les professionnels, ils gagneront en image de marque. C'est-à-dire que déjà, ils pourront se faire leur propre pub dans la ville. C'est-à-dire que sur leur vélo cargo, ils pourront floquer leur vélo cargo, mettre leur numéro et donc les citoyens, ils verront leur vélo cargo partout en ville. Donc là, ils pourront se faire un petit marché sur ce côté-là. Et il y en a plein d'autres, mais je les ai moins en tête et on n'a peut-être pas le temps de tous les illustrer.
Alors moi, j'ai quand même noté l'histoire de la pizzeria à vélo, ce qui est quand même... Je m'étais jamais imaginé que ça pouvait se faire comme ça. Et effectivement, on n'en a pas du tout parlé, mais ces vélos utilitaires et ces vélos cargo, ils sont quand même électriques. Mais tu me parlais d'une autre technologie lors de la pause que je ne connais pas. Non, tu ne m'as pas dit qu'il y avait d'autres choses que des vélos électriques, en me disant que c'était des vélos de puristes.
Oui, c'est les Omnium.
Oui.
C'est des vélos cargo, mais pas électriques. Ils sont conçus pour être très légers et pratiques, pour transporter de la charge, mais sans avoir le système électrifié.
Et on posera la question sur l'électricité à Gilliane, qui travaille justement dans une SCOP autour de l'électrique. On n'a de toute façon pas trop le temps là-dessus, mais ça renvoie à la question de la ressource en amont aussi, que de se dire, OK, on transforme la mobilité pour aller vers l'électrique. Mais comme nous, là, on vient de passer les échelles d'un individu qui rentre dans le collectif et le collectif qui essaie de transformer le système, on pose quand même la question de la ressource qu'on aborde semaine après semaine ici dans cette émission. La semaine dernière, on avait Stop Total, qui est un des producteurs d'électricité. Et donc la question aussi se pose de savoir comment est-ce qu'on produit cette électricité qui derrière arrive à faire mouvoir tous ces vélos qu'on pourrait voir dans ces rues prochainement. Voilà, donc là, on ne va pas en parler ce soir, mais c'est quand même de savoir retisser les sujets les uns avec les autres et partir finalement de tes expériences vers ce projet vers une transformation de la société, et de savoir ce qui se joue en amont, en aval et sur le côté pour pouvoir rendre cette transformation possible. Il reste une minute, Fanny. Est-ce que tu as un dernier message ou une inspiration que tu as envie de partager avec nous avant de rendre l'antenne?
Deux messages. Déjà, moi et les boîtes à vélo, on est vraiment tous disponibles pour répondre aux questions de toutes les personnes qui se posent des questions ou qui se projettent dans un avenir professionnel à vélo cargo. Donc, on est vraiment disponibles et nos coordonnées sont sur le site internet des boîtes à vélo. Et un deuxième message, c'est que tout à l'heure, on a parlé sur les professionnels qui roulaient à vélo. Et pour les férus d'histoire, dans le panorama professionnel de la cyclogistique qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a un petit chapitre très, très intéressant qui retrace cette historique-là en France. Les chargés d'études ont fouillé les archives française et c'est assez, assez étonnant. Donc j'invite toutes les personnes qui souhaitent mieux connaître le vélo à lire ce petit paragraphe.
Il se trouve
sur l'onglet ressources des boîtes à vélo ou en tapant les mots-clés sur les moteurs de recherche, vous trouverez l'étude qui se trouve également, qui est l'étude complète et sur l'ADEME.
Et on espère que les férus d'histoire qui nous écoutent auront tendu l'oreille pour aller de ce pas lire cette petite présentation. Et un grand merci à toi, Fanny, d'être venue ce soir nous présenter des boîtes à vélo.
Merci à toi aussi.
Et merci à Gilliane d'avoir été en studio pour rendre cette émission possible. Sidi qui se trouve quelque part dans les locaux et qui fait tourner la boutique de Radio Galère, surtout dans les périodes de panne. On tient à le remercier parce que c'est pas toujours facile ici de rendre ces émissions possibles, tout simplement. On rend l'antenne, la semaine prochaine ça sera avec Neo Eco où on va parler de réindustrialisation et d'économie circulaire. Très bonne soirée, c'était La Forêt des Possibles et à la semaine prochaine.
Au revoir.